Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Le Nouveau Testament utilise des images pour nous aider à comprendre la relation qui existe entre Jésus-Christ et son Église. Dans la lettre de Paul à l'Église d'Éphèse, nous apprenons que l'Église est l'épouse de Christ. Que pouvons-nous apprendre de cette image? Étienne est de retour parmi nous pour nous en dire plus.
Ensuite, dans la deuxième partie de notre émission, Antoine nous rejoindra pour aborder tout naturellement le thème du mariage. Nos deux séries s'appuient sur l'enseignement de Paul, trouvé dans Éphésiens chapitre 5. À présent, Sandre va nous lire les versets 21 à 25.
Parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme, comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle.
Merci. Étienne, bonjour et merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour Yann et bonjour à tous. La dernière fois, nous avons appris que parfois la Bible se sert de l'image du mariage pour illustrer le fait que Jésus est le Sauveur de l'Église.
Oui, et je me souviens de cette parabole trouvée dans le livre du prophète Ézéchiel, où nous rencontrons un prince qui, par amour pour une jeune femme orpheline, l'arrache à sa misère en se mariant avec elle pour la transformer en princesse. Et désormais, elle peut jouir d'une vie nouvelle et merveilleuse. Oh, cette histoire est un beau rappel de l'amour de Christ pour l'Église. Mais de quoi allons-nous discuter aujourd'hui?
Jésus est Sauveur, mais il est aussi Seigneur. Dans le texte lu, l'apôtre Paul compare la relation qui existe entre Christ et l'Église à celle qui existe entre un homme et une femme mariés. Il écrit que Christ est la tête ou le chef de l'Église, tout comme l'homme est la tête de la femme. Autrement dit, Christ est Seigneur et l'Église doit se soumettre à lui.
Les questions d'autorité et de soumission sont assez controversées de nos jours. En règle générale, les gens n'aiment pas se soumettre à l'autorité de quelqu'un. Ils préfèrent afficher leur autonomie, leur indépendance.
Oui, et ceci peut devenir un véritable problème. Toutefois, il faut l'avouer, les hommes qui se trouvent en position de pouvoir et d'autorité en abusent trop souvent aussi. Le pouvoir peut être de nature politique ou militaire, économique ou sociale. Cependant, dès qu'une personne accède à une position de pouvoir, les tentations d'en abuser deviennent grandes. En effet, trop de personnes usent de leur pouvoir à des fins personnelles. Trop souvent, elles ne pensent qu'à leurs propres intérêts, aux dépens de ceux des autres. Elles tombent par exemple dans la corruption. Elles se mettent à exploiter ou à maltraiter leurs prochains. Alors, dans ce contexte, si nous commençons à déclarer que Jésus est Seigneur, la tentation existe de croire qu'il est tout simplement un dictateur de plus. C'est pourquoi nous voulons l'affirmer, Jésus est différent. Il ne se conforme pas aux valeurs de ce monde. Il détient le pouvoir absolu, mais il n'abuse aucunement de son pouvoir.
Mais en quoi Jésus est-il différent? Comment use-t-il de son autorité? Pourquoi est-il un bon exemple à suivre?
Selon l'apôtre Paul, Christ est non seulement la tête de l'Église, son Seigneur, mais il l'aime aussi profondément. Et ce mot « aimer » fait toute la différence. Or ici, la définition du mot « aimer » est celle qui évoque le don de soi pour le bien de l'autre. Elle exprime les sacrifices prêts à être faits pour répondre aux intérêts de l'autre. En lisant les évangiles, nous constatons que Jésus est tout-puissant. Il exerce son autorité sur les esprits maléfiques. Il exerce son autorité même sur la création et la nature. Il ordonne aux tempêtes de s'apaiser et les vagues et les vents lui obéissent. Entre ses mains, le pain et les poissons se multiplient et il peut nourrir des foules. Jésus a toujours usé de son autorité pour venir au secours des hommes et des femmes dans le but de leur faire du bien. Son autorité s'exprime à travers sa compassion et sa bonté, sa douceur et sa miséricorde. Le prophète Ésaïe, en parlant de celui que Dieu allait envoyer, a annoncé à son sujet « il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix dans les rues, il ne cassera pas le roseau abîmé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit.
Merci pour ce rappel important. Dites-nous maintenant en quoi Christ est la tête de l'Église.
Pensons au corps humain. La tête, qui contient notre cerveau, est très importante. Dans notre tête s'élaborent nos décisions. Puis notre tête commande aux divers membres de notre corps de se mettre en mouvement. Par exemple, c'est notre cerveau qui réalise que nous avons besoin de manger. Et du coup, nous réfléchissons et décidons quel repas préparer. Puis notre cerveau coordonne tous les mouvements de nos membres, nos bras, nos doigts, et ainsi de suite, pour assurer la bonne préparation des plats que nous avons choisi de cuisiner. Christ est la tête de l'Église. C'est sa volonté qui compte. Ce sont ses desseins, ses projets qui sont importants. Jésus est le Seigneur, et il fait part de sa volonté à l'Église principalement par le biais de sa parole, la Bible. En lisant la Bible, en écoutant ce qu'il enseigne fidèlement, l'Église, l'épouse de Christ, apprend de lui et découvre sa volonté sur les plans moral, spirituel et relationnel, mais aussi sa volonté concernant le service et la mission.
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce que Jésus, le Seigneur, attend de son épouse, l'Église?
Oui, tout comme une bonne épouse doit se soumettre à son mari, Christ s'attend à ce que l'Église lui soit soumise, c'est-à-dire qu'elle lui obéisse, qu'elle mette en pratique sa parole, qu'elle tienne compte de ses conseils et de sa sagesse dans ses choix et ses décisions. Chaque croyant qui fait partie de l'Église devrait vivre cette attitude de soumission. Pour conclure, il s'agit toutefois d'une soumission confiante et non pas d'une soumission craintive ou servile. Nous nous soumettons à Christ car nous savons qu'il nous aime et que sa volonté pour nos vies, sa sagesse et ses conseils sont destinés à contribuer à notre bien.
Merci Étienne. Nous venons de parler de Christ et de son épouse, l'Église. À présent, et toujours en s'appuyant sur le texte trouvé en Éphésiens 5, Antoine va nous parler du mariage, de cette relation privilégiée qui unit un homme et une femme.
Nous venons d'apprendre que Christ est la tête de l'Église, tout comme le mari est la tête de sa femme. Cette notion suscite des questions et parfois des tensions. Pourquoi? Antoine va nous en dire plus. Bonjour et merci d'être de retour.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Antoine, de nos jours, l'idée selon laquelle le mari est la tête ou le chef de sa femme est de plus en plus contestée. Qu'en dites-vous?
À mes yeux, le fond du problème est que les hommes, les maris, ont mal compris cet enseignement. Et de surcroît, ils en abusent à de mauvaises fins.
Expliquez-vous davantage, s'il vous plaît.
Trop d'hommes utilisent cette notion de l'autorité du mari sur sa femme pour excuser ou même justifier des comportements qui sont franchement cruels et qui relèvent de la maltraitance. Trop d'hommes réduisent leur femme à un quasi-état d'esclavage. Ils pensent pouvoir donner à leur femme une liste d'ordres et ils s'attendent à une obéissance aveugle. Ils pensent que leur femme existe uniquement pour les servir et pour s'occuper de leurs enfants. Pire encore, trop d'hommes utilisent cette notion de l'autorité du mari sur sa femme pour justifier des actes cruels de discipline quand leur femme les déçoit ou ne répond pas à leurs attentes. Trop d'hommes, confortés dans cette notion d'autorité, cherchent à justifier la violence conjugale, qu'elle soit sexuelle, physique ou verbale, ou bien à excuser la pratique de privation au sein du couple, privation de nourriture, d'argent ou de liberté. Je voudrais insister avec force que si la Bible enseigne que le mari est le chef de sa femme, ce n'est absolument pas pour aller dans le sens que je viens d'évoquer. Je voudrais dénoncer tout recours à la violence, à la maltraitance, à la manipulation, à l'humiliation ou à la cruauté au sein du mariage, qu'elle soit pratiquée par le mari ou par la femme. Et si, lorsque nous parlons de l'autorité du mari sur sa femme, ce sont ces images qui viennent à l'esprit, nous pouvons comprendre que des gens, les femmes surtout, en soient révoltés. Toutefois, leur révolte résulte en fait d'une mauvaise compréhension et d'une mauvaise mise en pratique de l'enseignement biblique. En examinant l'enseignement de Paul de plus près, nous verrons qu'il exclut toute attitude tyrannique au sein du mariage.
Penchons-nous alors sur l'enseignement de Paul. Que dit-il exactement ?
Paul rappelle que le mari est la tête de sa femme, mais il est très important de noter qu'il enchaîne aussitôt avec les paroles suivantes. « Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. »
C'est comme si Paul savait qu'il fallait corriger les maris sur ce point.
Je le pense aussi, Yann. Le contexte dans lequel l'homme est la tête de la femme est avant tout une relation d'amour. Et cela change tout sur notre compréhension de la notion de l'autorité. De surcroît, il ne s'agit pas de n'importe quelle définition de l'amour. Non, Paul précise que le mari est appelé à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église.
Là, il s'agit d'un grand défi à relever.
C'est exact, Yann. Et au fur et à mesure que notre série avancera, nous apprendrons davantage comment les maris doivent aimer leur femme. Toutefois, lors de la première partie de cette émission, votre invité a bien expliqué que Christ, le Seigneur, n'exerce pas son autorité de façon abusive. Christ n'est nullement violent. Au contraire, il est doux et patient. Christ ne contraint personne. Il n'est pas cruel. De plus, Christ, qui est Seigneur, se dévoile comme un serviteur. Trop d'hommes cherchent à se servir de leurs femmes afin de promouvoir leurs propres intérêts. Il faut arrêter cette tendance. Le mari doit tenir compte des besoins, des aspirations et des intérêts de sa femme. Il doit faire tout ce qu'il peut pour l'aider tout en adoptant une attitude de service. Comment donc un mari doit-il aimer sa femme ? Et comment, dans ce contexte d'amour, doit-il assumer sa responsabilité de chef envers sa femme ? Nous y reviendrons avec des réponses plus détaillées tout au long de notre série. En bref, nous avons autour de nous trop d'exemples de mauvais maris qui abusent de leur force et de leur position et qui rendent la vie de leur femme malheureuse. Or, nous avons besoin d'apprendre à partir d'un bon exemple. Alors, nous avons besoin d'apprendre de Christ. Nous voulons recevoir de lui et nous inspirer de son amour afin de bien construire notre mariage, de le rendre solide et heureux, fondé sur l'amour et le respect réciproque, le service, tout en nous appuyant sur l'exemple parfait de Jésus-Christ.
Merci Antoine pour cet enseignement important. Notre émission touche maintenant à sa fin, mais nos deux invités seront de retour la prochaine fois afin de poursuivre nos deux séries. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.